Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les yeux de tous se tournent, se fixent sur vous, Seigneur, avec espoir, et vous leur donnez leur nourriture au temps voulu. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête du Très-Saint-Sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie est le plus grand de tous les sacrements que l'Église, notre Mère, nous ait donné, parce que non seulement il nous communique la grâce divine, mais encore, c'est l'auteur même de la grâce qui s'y donne à nous. Si le Christ a fait à son Église la promesse d'être avec elle tous les jours jusqu'à la consommation du siècle, eh bien, mes très chers frères, le sacrement de l'Eucharistie est l'une des réalisations de cette promesse. Notre Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Alors nous avons plusieurs choses à voir en cette magnifique fête qui est si consolante et si édifiante. Nous avons deux choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, rapidement, la nature et la doctrine du sacrement de l'Eucharistie, pour se remémorer les fondamentaux de notre religion. Nous verrons quel est que ce sacrement est le sacrifice du calvaire lui-même. Il est aussi, en même temps, le mémorial de la passion de notre Seigneur, et nous verrons brièvement ce que cela signifie. Et ensuite, le deuxième point sera que l'Eucharistie, à propos de l'Eucharistie et la vie du chrétien, quelles sont les dispositions que nous devons y apporter? Que signifie ce que dit saint Paul de s'éprouver, que tout homme s'éprouve soi-même? Et nous nous poserons évidemment une dernière question, comment vérifier si, la question qui consistera à répondre à la question de savoir comment vérifier si l'amour prédomine en nous et non pas la concupiscence. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Notre Seigneur, dans l'Évangile, dit ceci: Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. Il y a des considérations infinies que l'on pourrait faire sur ces paroles, des paroles qui sont à la fois très simples, très compréhensibles, tellement compréhensibles que les Juifs, à cette époque-là, ont compris, et c'est pour ça qu'ils ont quitté notre Seigneur. Un certain nombre d'entre eux ont quitté notre Seigneur en disant ces paroles sont trop choquantes. Eh bien, ce sont des paroles qui sont littéralement vraies. Il n'y a pas un second degré, si l'on peut dire. Il y a des sens plus profonds, bien entendu, mais ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Une fois que nous avons compris cela, nous comprenons en quoi consiste cette nourriture divine que l'Église nous donne. Eh bien, mes très chers frères, dans l'Arche de l'Alliance, qui était dans le tabernacle et dans le temple, il y avait une urne que Moïse avait fait placer, et où dans cette urne, il était conservé de la manne. Vous savez, cette nourriture miraculeuse que Dieu envoya pendant 40 ans à nos pères dans le désert. C'était une nourriture, une sorte de granulé, disons, une sorte de nourriture qui descendait du ciel chaque nuit. Et chaque matin, nos pères allaient ramasser cette chose par terre. Et cette chose s'appelait la manne. C'était une nourriture miraculeuse que Dieu leur avait envoyée d'en haut. Et si Moïse a fait placer dans l'Arche de l'Alliance, une urne avec de la manne dedans, c'était pour conserver un souvenir de la providence de Dieu pendant toutes ces années. C'est un miracle, et c'est un des rarissimes miracles qui a duré très longtemps, 40 ans, très exactement, 40 ans de telle sorte que nos pères dans le désert ne sont pas morts de faim, mais ils ont eu amplement de quoi manger. Eh bien, mes très chers frères, dans nos tabernacles se trouve de même, le mémorial de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de la rédemption qu'il a accomplie pour nous. Or, comme dit notre Seigneur, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ce qui ne les a pas empêchés de mourir. Évidemment, c'était une nourriture miraculeuse, mais pour les besoins temporels. Eh bien, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, eh bien, c'est une nourriture, c'est la nourriture, non pas pour le temporel, mais pour le spirituel. Dans nos tabernacles se trouve le mémorial de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette nourriture, contrairement à la manne qui était remisée dans l'Arche de l'Alliance, c'est une nourriture qui nous est constamment donnée. elle nous est constamment accessible. Autant, aussi longtemps que l'Église durera, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, il y aura cette manne divine pour nous nourrir dans notre pèlerinage vers le ciel, comme elle a nourri dans leur pèlerinage vers le ciel nos pères, et comme elle nourrira, eh bien, nos enfants. C'est une nourriture qui est confectionnée par le prêtre lors de la Sainte Messe. Et la Sainte Messe est ici, doit être considérée comme le sacrifice non sanglant du calvaire. C'est-à-dire que notre Seigneur est mort, une fois pour toutes, comme dit l'Écriture, sur la croix, sur le mont du calvaire. Mais notre Seigneur, la veille de son sacrifice sur le calvaire, avait institué ce qui fait aujourd'hui la messe, c'est-à-dire le saint sacrifice non sanglant, qui est beaucoup plus que le rappel, beaucoup plus que le symbole, beaucoup plus que le mémorial au sens profane du terme de la mort de notre Seigneur. C'est la même chose, c'est le sacrifice même de notre Seigneur, c'est le sacrifice mystérieux de Melchisédek qui offrait à Dieu le pain et le vin, et qui a communié à Abraham mystérieusement, c'est la même chose, il est identique, c'est le sacrifice renouvelé, mais il n'est pas réitéré. C'est-à-dire que nous ne recrucifions pas le Christ, nous renouvelons sacramentellement le mystère de sa passion. C'est-à-dire que si nous avions à recrucifier le Christ, ça voudrait dire que ça voudrait dire que toute la passion serait à refaire, puisque le Christ devrait encore une fois être crucifié. Ou alors, ça voudrait dire que le premier sacrifice n'était pas suffisant et qu'il fallait plusieurs fois sacrifier le Christ qui renaîtrait constamment, un peu comme si on tuait l'agneau pascal, on l'immolait, on le mangeait, il ressuscitait et on recommençait. Il y aurait quelque chose d'absurde. Et puis, historiquement parlant, il y aurait quelque chose d'impossible. Dieu ne veut pas que ce genre de choses se produisent parce qu'il y a quelque chose d'inconvenant. Donc, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on dit que c'est le sacrifice du calvaire renouvelé? Eh bien, c'est le même. Le sacrifice du calvaire s'est accompli en mode historique et la messe s'accomplit en mode liturgique, de telle sorte que les deux sont la même chose, mais sur des plans différents. Ce n'est pas, me semble-t-il, très difficile à comprendre. Il faut le comprendre par la foi et l'admettre par la foi, bien entendu, mais c'est une doctrine qui est capable d'être assez facilement intégrée dans la mesure où on est de bonne foi et dans la mesure où, contrairement par exemple aux protestants, on ne veut pas absolument imposer des sens qui sont des sens finalement très récents aux paroles de notre Seigneur. Les protestants disent « c'est un mémorial, donc c'est quelque chose qui nous fait penser ». Le problème, c'est que lorsque notre Seigneur a institué ce mémorial, justement, ce sont ses propres mots, donc il ne faut pas récuser le terme, mais il l'a institué de telle sorte que tout le monde a compris, et le témoignage universel de toutes les églises depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, inclusivement des schismatiques et des gens qui sont à l'extérieur de l'Église, eh bien, tout le monde a toujours compris que le mémorial était le renouvellement du sacrifice. Il n'y a que les protestants, arrivés 2 minutes avant la fin du monde, qui ont cru comprendre que c'était simplement quelque chose pour faire penser à ce qui est absurde en réalité, et les absurdes, ce n'est pas nous, c'est eux. Donc, vous voyez, mes très chers frères, c'est un mémorial de la mort de notre Seigneur, puisque c'est dit dans l'oraison d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle dit l'oraison, elle nous fait dire « Ô Dieu, qui, sous ce sacrement admirable, nous avez laissé le mémorial de votre passion. » Donc c'est un mémorial, mais contrairement au mémorial profane, c'est ce qui, liturgiquement parlant, rend toujours présent le même mystère, qui n'est pas tellement un mystère historique comme une bataille au sujet de laquelle on ferait une statue ou un monument, mais c'est un événement divin, c'est l'événement qui a consisté dans le fait que le Fils s'est offert à son Père en rançon pour la multitude. Donc, mes très chers frères, par la Sainte Communion, Dieu nous communique la vie éternelle. Saint Thomas va même jusqu'à dire que, en nous donnant la chair de son Fils, Dieu fait de nous des dieux. Alors évidemment, il faut le comprendre au sens des psaumes, bien entendu, mais il se trouve que nous sommes véritablement rendus participants de la nature divine, c'est Saint-Pierre qui le dit, par la mendication sacrée du corps et du sang du Christ. Il y a quelque chose de tout à fait merveilleux, et ce que l'Église appelle, la liturgie appelle par ailleurs, un admirable échange, c'est-à-dire que le Christ prend sur lui cette chose misérable qu'est la nature humaine, et il nous donne de devenir participants de cette chose admirable et désirable qu'est la nature divine. Toutefois, mes très chers frères, le Saint-Sacrement n'est pas lié à l'existence triomphante de notre Seigneur, tel qu'il était en tant que Verbe de Dieu avant les temps. Elle n'est pas liée non plus à ce qu'il est en tant que Dieu impassible, fils de Dieu qui est assis à la droite de son Père ou qui est dans les lieux célestes. C'est pour cela que notre Seigneur dira que le Fils de Dieu qui est descendu du ciel est dans le ciel. Il est lié, ce sacrement, à la mort de notre Seigneur. C'est pour cela que c'est un mémorial de la passion de notre Seigneur. Ce n'est pas un mémorial de sa naissance, ce n'est pas un mémorial de sa résurrection, même si, bien entendu, nous faisons allusion à son incarnation, à sa résurrection, à sa vie, à son enseignement, bien entendu. Mais fondamentalement, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le Saint-Sacrifice de la messe est lié à la mort de notre Seigneur. Il ne faut pas s'imaginer que cette évocation de la mort a quelque chose de négatif dans le sens où elle nous ferait oublier sa résurrection. Pour pouvoir ressusciter, il a fallu qu'il meure. Donc sa mort est extrêmement importante, sa mort est la condition de sa résurrection. Donc parler de sa mort, c'est bien sûr impliquer sa future résurrection, 3 jours après, mais c'est aussi parler de quelque chose sans laquelle nous n'aurions pas pu être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par la résurrection de notre Seigneur, nous sommes sauvés par sa mort. Sa mort est vivifiante parce qu'il est ressuscité, mais il n'aurait pas pu vivre glorieusement dans une sorte de résurrection sans mort. Il aurait pu s'il l'avait voulu, mais nous n'aurions pas pu être sauvés. Nous sommes ressuscités par sa mort, nous sommes morts dans sa mort pour ressusciter de sa résurrection et vivre une nouvelle vie. C'est pour cela qu'il y a quelque chose de funèbre dans ce sacrement, et c'est pour cela que les auteurs, je pense à Rupert, un abbé du Moyen-Âge qui a fait des commentaires de la liturgie, qui dit qu'en célébrant le Saint-Sacrifice de la messe, l'Église célèbre les funérailles de son époux. Ce n'est pas morbide, ce n'est pas quelque chose qui est défaitiste, c'est que nous sommes au cœur même du mystère de l'immolation nécessaire de l'agneau de Dieu afin que nous puissions être sauvés. Sans effusion de sang, est-il écrit dans l'Écriture, il n'y a point de pardon. Donc, plus que la joie de la résurrection, la messe est liée, plus que la joie de la résurrection, la messe est liée à, en quelque sorte, à la merveille de l'expiation par le versement du sang de l'agneau immolé. Le Christ est notre Pâque, il est la vraie Pâque que nos pères immolaient autrefois dans le désert, en Égypte, dans le désert et dans la terre promise. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a dû mourir sur le bois du calvaire afin de ressusciter pour nous, et c'est pour cela que nous faisons mémoire de sa mort en perpétuant la réalité de ce sacrifice expiatoire. Dans cette communion, ai-je dit, par la communion, Dieu nous communique la vie éternelle de son Fils. Dans le sacrifice du calvaire, il y a quelque chose à adorer, mais aussi, parce que c'est un vrai sacrifice, il y a quelque chose à consommer. Si notre Seigneur, comme disent les protestants, est mort pour nous au calvaire, et que cela a accompli notre rédemption, et c'est tout à fait vrai, il se trouve que cela aurait pu être éventuellement le sacrifice accepté par Dieu, Dieu le Père, en ce moment-là, il y a 2000 ans, mais il y aurait quelque chose d'imparfait dans le sens où nous serions mis au bénéfice de ce sacrifice. Donc, le sacrifice, effectivement, est accompli au bénéfice de quelqu'un, donc de nous, des chrétiens, mais il y a aussi une condition dans le sacrifice, et ça, nous l'apprenons par le système des sacrificiels de l'Ancien Testament. Il faut que celui qui bénéficie du sacrifice communie au sacrifice, mange quelque chose du sacrifice. Alors, pas forcément pour tout, c'est-à-dire le sacrifice de l'Holocauste était un sacrifice qui était entièrement offert à Dieu et donc auquel l'offrant ne participait pas, mais d'une façon générale, il faut participer au sacrifice. Le sacrifice de notre Seigneur sur la croix a bien sûr accompli le mystère de l'Holocauste, c'est-à-dire que notre Seigneur, le Fils, s'est donné tout entier à son Père. Donc, il a accompli le mystère du sacrifice de l'Holocauste. Mais il a aussi accompli les autres mystères du sacrifice, et notamment le mystère du sacrifice de l'agneau pascal, qui requiert absolument que tous ceux qui sacrifient, et pour lesquels il est sacrifié, mangent de cet agneau. Donc, comment faire? Les protestants reconnaissent, et ils ont raison, que le sacrifice du Christ, que la mort du Christ a été un sacrifice, mais comment peuvent-ils y participer? Les malheureux, ils ne peuvent pas y participer. Nous, les catholiques, mes très chers frères, nous pouvons y participer. Comment? Grâce au saint sacrifice de la messe, qui est le renouvellement non sanglant, c'est-à-dire liturgique, de la passion et la mort de notre Seigneur, de telle sorte que lorsque le prêtre nous donne cette hostie que nous pouvons et que nous devons manger, nous participons très réellement au sacrifice qui s'est accompli historiquement il y a 2000 ans et qui s'accomplit dans l'absolu pour nous par le retour éternel du Fils vers son Père dans ce mouvement d'amour qui est la personne même du Saint-Esprit. Donc la rédemption, voyez-vous mes très chers frères, se perpétue, et la rédemption a été accomplie, elle se perpétue par le mémorial de la mort de notre Seigneur, c'est certain, et nous y participons par la communion. La communion est donc la participation au saint sacrifice. Il y a un repas sacrificiel, donc d'une certaine manière, les modernistes ont raison lorsqu'ils disent que que la messe est un repas, ils ont raison, mais la seule chose, il ne faut pas oublier de dire un repas sacrificiel. Vous voyez, tout le monde a un petit peu raison, sauf que seul l'orthodoxe, le catholique, le parfaitement catholique, eh bien, a absolument raison. Il est dans la vérité et il bénéficie de cette vérité. Bien sûr que c'est un repas, mais c'est un repas sacrificiel. Si vous excluez la dimension du sacrifice de la messe, alors il n'y a plus qu'un repas, un repas qui pourrait très bien être profane, et même si ce repas est pris avec action de grâce, ça reste un repas temporel. C'est un repas spirituel. L'Église voue donc un culte de l'atrie à la très sainte Eucharistie, parce que ce n'est pas simplement comme l'eau du sacrement du baptême, l'huile du sacrement de la confirmation ou d'autres choses semblables, que ce n'est pas simplement quelque chose, une matière prévue par l'Église, instituée par le Christ, pour jointe à la forme, pour nous donner, pour nous conférer des grâces. C'est véritablement le donateur de la grâce lui-même qui s'unit à nous parce que comme il est lui-même et le sacrificateur et la victime, il opère par le prêtre à l'autel en tant qu'il opère in persona Christi, comme vous le savez, c'est-à-dire en personne même en tant que le Christ même, et il se donne lui-même en tant qu'hostie, c'est-à-dire en tant que victime, à ses fidèles qui ont assisté pieusement au saint sacrifice et qui bénéficient de ce sacrifice. Alors évidemment, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse pour dire, pour répondre à la question. Comment expliquer que les fidèles qui sont défunts, qui sont dans le purgatoire, bénéficient des fruits du sacrifice alors qu'ils ne peuvent plus communier? Eh bien, c'est très simple, mes très chers frères. L'Église nous l'explique d'une façon très simple et très compréhensible. Tout simplement, comme nous communions à leur intention, ils bénéficient des fruits du saint sacrifice de la messe par le biais de la communion des saints. C'est-à-dire que comme nous sommes tous liés, nous sommes tous membres d'un même corps, eh bien, il se trouve que si un vivant communie à l'intention des défunts, cette communion est appliquée, le fruit de cette communion est appliqué aux défunts. Et c'est ainsi que dans le purgatoire, les défunts participent et bénéficient au saint sacrifice de la messe, même si, évidemment, étant dans l'autre monde, ils ne peuvent plus accéder à la mendication physique, mais ils accèdent au fruit de la mendication, de même que, d'une certaine manière, d'une façon peut-être moindre, mais l'on peut, en communiant pour quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans les tribulations, lui obtenir quelque chose des fruits du saint sacrifice de la messe auquel nous avons participé. Vous voyez comme l'Église a tout prévu, et c'est une chose magnifique que de voir combien, dès lors que nous sommes membres du corps mystique du Christ et que nous sommes attachés au Christ par la charité, eh bien, nous sommes mis au bénéfice d'un trésor immense et d'une nourriture inépuisable. Voilà pour le saint sacrifice de la messe, sa doctrine. Bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais il nous faut passer au second point. Dans le graduel, il est dit, que nous avons entendu au début de ce sermon, il est dit ceci. Les yeux de tous se fixent sur vous, Seigneur, avec espoir, et vous leur donnez leur nourriture au temps voulu. Oculomnium in te sperant domine. Sans l'Eucharistie, mes très chers frères, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Si nous nous imaginons que l'Église pourra exister dans un avenir plus ou moins proche, sans évêque, sans prêtre, et donc sans Eucharistie, car pour faire l'Eucharistie, il faut un prêtre, au moins un prêtre, si nous pouvons nous imaginer que l'Église pourra exister sans que le sacerdoce existe plus, nous nous trompons complètement. Tout simplement parce que sans l'Eucharistie, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne ou la vie spirituelle s'entretient par la mendication sacrée de l'Eucharistie aussi fréquemment, disons par une mendication aussi fréquente que nous mangeons nos repas pendant chaque jour de la semaine. Ça signifie tout simplement que tout comme l'homme ne peut pas vivre longtemps sans manger, sans s'alimenter, de même le chrétien ne peut pas vivre longtemps sans communier au très saint sacrement de l'autel. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas de vie chrétienne. Mais, mes très chers frères, ce n'est pas parce que l'on communie que l'on recueille le bienfait du corps du Christ. Ce n'est pas le simple fait de communier. Je ne parle même pas des communions indignes dont nous parlons dans un instant. Mais ce n'est pas le simple fait de communier. C'est le fait d'avoir un désir ardent de la vie éternelle et qui nous fait ordonner la vie temporelle à l'obtention de ce but. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est comme pour tout, mes très chers frères, si nous devons, pour aller au ciel, communier, et notre Seigneur est explicite là-dessus, et l'Église aussi, il faut communier, après s'être confessé, une fois par an au moins. Donc, si nous ne pourrons pas aller au ciel sans communier, en revanche, il ne sert à rien de communier si l'on ne reçoit pas notre Seigneur dans un organisme spirituel qui désire aller au ciel. À quoi sert-il de communier si c'est pour ne pas vouloir aller au ciel? Si c'est pour faire comme tout le monde fait dans l'Église, ça ne sert strictement à rien. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Et à quoi sert-il de prendre une nourriture très riche si vous n'avez pas à faire un long voyage? Il faut se nourrir en fonction de son désir. Je dois aller faire une très longue course, eh bien je vais manger des choses qui vont me donner de l'énergie pendant tout au long de ma course. Vous voyez, je reste à la maison et je ne fais pas d'occupation très particulière, je mangerai relativement moins parce qu'il n'est pas bon de surcharger mon corps d'aliments qui ne me servent pas. Vous voyez, de même, si nous n'avons pas cet ardent désir d'aller au ciel, la mendication de l'Eucharistie ne sert à rien. Parce que la mendication de l'Eucharistie est semblable à ce pain mystérieux qu'un ange a donné à Élie et qui lui a permis de marcher sans discontinuer 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Vous vous souvenez, Élie avait, après avoir remporté ce triomphe sur les prophètes de Baal, sur le sommet du mont Carmel, où Dieu a manifesté sa puissance en faisant descendre le feu du ciel sur l'Holocauste, eh bien, Élie a été persécuté par la reine Jézabel, et il s'est caché. Et il a voulu, Dieu, le Saint-Esprit l'a poussé à aller se recueillir sur la montagne où Dieu a donné la loi à Moïse, mais il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Et un ange l'a réveillé, et lui a donné une cruche d'eau et un pain miraculeux, de telle sorte qu'après en avoir pris plusieurs fois, il a marché 40 jours et 40 nuits sans discontinuer jusqu'à la montagne de Dieu, où il a eu la révélation de la grandeur et de la bonté de Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour le pain eucharistique qui nous est donné. Si nous ne le recevons pas dans le ferme propos d'aller au ciel, alors il ne nous sert non seulement à rien, mais en plus il se retourne contre nous. Si nous voulons véritablement aller au ciel, alors il faut que notre vie soit ordonnée à cette accession au ciel. Parce que nous savons que dans la mesure où nous sommes baptisés, nous pouvons aller au ciel. Mais dans la mesure où nous sommes baptisés, nous avons aussi le devoir de tout ordonner dans notre vie pour aller au ciel. De telle sorte que si nous n'ordonnons pas toute chose dans notre vie pour l'obtention de ce but, alors, encore une fois, notre désir ne sera pas évident et notre mendication sera vaine. C'est pour ça que saint Paul, dans cette épître qui est si belle et si terrible, dit ceci. Le premier épître aux Corinthiens, il dit ceci, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain et boira le calice du Seigneur indignement répondra du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme s'éprouve donc soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de ce calice, dit saint Paul. Examinons nos cœurs, mes très chers frères. C'est par l'amour qui domine que nous sommes dignes ou indignes de la communion. Voilà ce que nous enseigne notre Père saint Augustin. C'est par l'amour qui y domine ou qui n'y domine pas que nous sommes dignes ou indignes de la communion. Il ne faut pas s'épouvanter Pardon, il ne faut pas ne pas s'éprouver, ne pas, nous verrons par la suite pourquoi il ne faut pas s'épouvanter de ces paroles. Mais nous verrons par la suite que ne pas s'éprouver quand on va communier, c'est déjà manifester que l'on est indigne. Et j'ose espérer, mes très chers frères, qu'il n'y a aucun chrétien digne de ce nom qui se présente à la communion et qui ne s'est pas éprouvé lui-même, au moins sérieusement, et qui ne s'est pas confessé. Mais ne pas s'éprouver, voyez-vous, c'est déjà une preuve, même si on a, semble-t-il, pas grand-chose à se reprocher au sens mondain du terme, c'est déjà une preuve que l'on est indigne de la communion. Pourquoi? Parce que si l'on veut communier, alors on fera tout ce qu'il faut pour devenir digne de la communion, puisque nous sommes appelés à communier au précieux corps de notre Seigneur. Comment s'éprouver? Eh bien, il faut reconnaître si nous sommes véritablement crucifiés avec le Christ et si nous vivons une vie qui est caractérisée par la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui se vérifie nécessairement par l'amour du prochain. Si nous aimons Dieu, il faut que nous gardions ses commandements. Selon la parole de notre Seigneur, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il n'est pas simplement nécessaire d'avoir de grandes conceptions du Saint-Sacrement de l'autel. Ce n'est pas non plus une question de savoir si nous savons exactement ce que nous faisons lorsque nous communions. Oui, nous avons été au catéchisme, nous savons exactement ce que nous faisons. Il s'agit de savoir si nous faisons ce qu'il faut faire pour pouvoir recueillir les fruits de cette communion. Dans la séquence Laudation que nous avons chantée il y a un instant, qui est très longue et très, très dogmatique et très, très pieuse en même temps, nous apprenons certaines choses. Par exemple, la strophe 17 nous dit ceci: « Les bons le reçoivent, ce sacrement, et les méchants aussi, mais pour un sort bien différent, de mort ou de vie. La grâce de l'Eucharistie est avant tout la vie du Fils de Dieu. Or, la vie du Fils de Dieu n'est pas, si vous me permettez l'expression, mais justement c'est pour la nier, elle n'est pas un carburant. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous imaginer que l'Eucharistie, ou plutôt la communion, est une sorte de passage à la station-service qui nous met pas dans un sens insultant, mais qui nous refait nos forces afin de pouvoir combattre, de pouvoir éventuellement militer. Bon, vous savez quelle est ce qu'il faut penser de cette façon-là, mais enfin, on peut se tromper autrement aussi. Ce n'est même pas une façon de refaire ses forces, de prendre une nourriture, comme nous l'avons dit, mais dans un sens univoque cette fois-ci, de prendre des forces pour pouvoir faire son devoir d'État, etc. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. Si ce n'est que cela, nous nous trompons, et nous nous trompons gravement, même si nous sommes parmi les mieux disposés. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de recueillir des grâces, comme par exemple lors du sacrement de confirmation, encore que c'est bien le Saint-Esprit qui nous est donné avec la grâce, donc, mais enfin, le sacrement de confirmation est distinct du Dieu qui nous fortifie. Donc, si nous demandons la confirmation, si la confirmation nous est donnée, c'est pour pouvoir avoir un surcroît de grâce, pour pouvoir être parfait dans l'accomplissement de nos devoirs. Mais lorsque nous communions, une autre façon, une autre manière de recevoir des grâces. Sinon, ça serait une sorte de doublon. Mais lorsque nous communions, mes très chers frères, il se trouve que non seulement nous recevons des grâces pour être parfaits dans un devoir d'État, c'est vrai, vous avez raison de le penser parce que c'est vrai, mais nous recevons celui-là même qui est le donateur des grâces, de la grâce, et donc auquel nous devons être conformés dans notre vie même. Les bons et les méchants sont donc la distinction entre ceux qui sont conformes au Christ et ceux qui ne le sont pas. La nourriture qui nous fortifie ne fortifie que celui qui est apte à la recevoir. Et nous commençons à comprendre qu'on est apte à recevoir cette nourriture divine que dans la mesure où nous désirons de tout notre cœur être conformes à notre Seigneur Jésus-Christ. La strophe 21 dit ceci: voici le pain des anges devenu l'aliment de l'homme en son voyage. C'est ici le pain des enfants qu'il ne faut pas jeter aux chiens. C'est une strophe que nous avons de la peine à entendre parce qu'elle est tellement dure pour les mauvais chrétiens et nous sommes tous des mauvais chrétiens potentiels et nous avons peut-être tous été des mauvais chrétiens, ou en tout cas nous pourrions tous devenir des mauvais chrétiens si jamais nous faiblissions. Que Dieu nous en garde, mes très chers frères. Cette strophe est terrible. Mais en même temps, elle nous donne un renseignement absolument fondamental. Elle nous dit, voici le pain des anges, donc le sacrement, devenu l'aliment de l'homme en son voyage. Factus scibus viatorum, devenu la nourriture des voyageurs. Être un pèlerin vers le ciel, mes très chers frères, c'est cela, être dans les bonnes dispositions pour communier. Si nous désirons que la volonté de Dieu pour nous se réalise, alors il faut que ce désir se manifeste par la charité, et la charité est factrice d'ordre, et elle est l'âme même de l'ordre. C'est-à-dire que si nous désirons vraiment aller au ciel, il faut d'une certaine manière, si j'ose dire, que nous nous donnions les moyens d'aller au ciel en ordonnant notre vie à la réalisation de la volonté de Dieu et de la volonté de Dieu seule, à l'exclusion de la volonté du diable ou de la volonté propre, bien entendu. Vous avez compris pourquoi la charité doit dominer en nous. Bien sûr, la charité se devrait d'être parfaite, mais comme dit notre père saint Augustin, un lingot d'or ou une toute petite paillette d'or n'ont pas le même poids, certes, mais c'est de l'or. Vous voyez, une charité commencée, dit-il, c'est déjà de la charité. Ce n'est pas une sorte de chose qui deviendra de la charité après un certain temps, c'est déjà de la charité. Donc ne nous épouvantons pas. Il ne s'agit pas de dire, ah bon, tant que je ne serai pas saint, donc je comprends que je ne pourrai pas communier. C'est faux. C'est faux. Mais il faut comprendre qu'on pourrait dire, tant que je n'ai pas une charité qui commence à prédominer en moi, ou que je n'ai pas ce ferme désir, et que je ne me donne pas les moyens, avec l'aide de la grâce de Dieu, bien entendu, mais toujours, mais par un très ferme effort de volonté et par une violence faite à moi-même, si je ne me donne pas ces moyens de commencer à recueillir ces paillettes de charité qui vont finir par être une grosse pépite de charité, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression, je ne suis pas encore au niveau de base pour pouvoir communier. Il faut que cette charité, il ne faut pas que cette charité soit forcément parfaite, absolue, de toute façon elle ne sera absolue que dans le ciel, et parfaite dans le ciel. Nous ne sommes que des voyageurs ici-bas. Mais il faut quand même qu'elle soit commencée. Vous voyez, il ne faut pas que le péché règne sur nous habituellement. Et quand je dis péché, je parle bien sûr des péchés mortels, mais aussi de l'attachement au péché véniel, l'attachement forcené, si l'on peut dire, ou l'attachement entêté au péché véniel. Saint François de Sales nous dit que c'est suffisant pour faire différer la communion. Vous voyez, si je sais que j'ai un trait de caractère qui ne me fait pas forcément faire des péchés mortels, mais qui me rend plus ou moins insupportable, et que d'une certaine manière je ne cherche pas à me guérir de ce défaut, je n'apporte pas les dispositions suffisantes au Saint-Sacrement, à la communion, pour recevoir ce précieux sacrement. Vous voyez, et si j'ai une vie désordonnée d'une manière ou d'une autre, si je fais des choses qui ne relèvent pas de mon devoir d'État, je n'apporte pas les dispositions nécessaires pour une bonne communion. Vous voyez, alors vous allez dire, mais ce ne sont pas des péchés mortels. Qu'en savez-vous déjà? Et ensuite, quand bien même ce ne serait pas des péchés mortels, quand bien même votre vêtement, votre robe blanche des noces ne serait pas entièrement maculée de cambouis, quelques taches de boue permettent de dire qu'elle est déjà sale. Vous allez dire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, légalement parlant, vous avez tout à fait raison. Mais du point de vue de l'honneur que nous devons au roi, l'un n'est pas très éloigné de l'autre. Voyez ? Que l'homme s'éprouve lui-même, dit saint Paul, que l'homme s'éprouve lui-même, c'est une parole qui n'est pas difficile à comprendre, et il dit, et qu'il mange alors, après s'être éprouvé, de ce pain et boive de ce calice. Car quiconque mange et en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Il y a une erreur qui est commise assez fréquemment, mes très chers frères, et que nous devons exposer et réfuter. C'est l'idée que la communion est un remède à la concupiscence dominante. C'est-à-dire que je commets toutes sortes de péchés, parce que j'ai de mauvaises habitudes et il y a donc une concupiscence dominante en moi, c'est-à-dire que ma vie n'est pas caractérisée en gros par l'amour de Dieu, elle est caractérisée en gros par l'amour de moi-même. Donc comme je suis quand même un bon chrétien par la grâce de Dieu, je me confesse et on me dit, ou je pense, ou je crois avoir lu, que sais-je, ou j'ai peut-être lu, qu'il faut que je communie très fréquemment pour pouvoir justement combattre les mauvaises tendances en moi et faire arriver à, disons, à vaincre mes vices. Alors, il y a quelque chose qui... La raison pour laquelle nous sommes dans... Plusieurs personnes sont dans cette confusion, c'est que l'Église parle assez fréquemment de la communion comme d'une médecine. Ce n'est pas dans la messe d'aujourd'hui, mais à plusieurs reprises au cours de l'année, nous voyons que l'Église, spécialement dans les oraisons, parle de la communion, du remède médicinal de cette communion. Et c'est tout à fait vrai, et loin de nous de dire que la communion qui est une nourriture n'est pas en même temps un remède. Mais attention, un remède, qu'est-ce que ça signifie? Interrogeons les auteurs, les moralistes, et nous apprendrons d'eux que ce remède dont il est question est un remède à l'usage des véritables pénitents, et non pas des velléitaires. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un pénitent et un velléitaire? Les deux sont en prise à un péché ou à des vices, et c'est là qu'il faut combattre, parce que la charité ne prévaut pas en eux. Le velléitaire est constamment en train de se dire « il faut que je me mette, il faut que demain vraiment je m'y mette, il faut que j'aime plus Dieu, il faut que j'aime plus le prochain, que je fasse plus d'efforts, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me confesser, puis je vais vite aller communier, comme ça je pourrai prendre des forces pour combattre mes mauvaises tendances. » Et le résultat, c'est que très rapidement, il communie et très rapidement, il recommence. Et il faut qu'il aille se confesser à nouveau, etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se confesser autant de fois que nous en avons besoin. Mais il ne faut pas communier dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il faut corréler les communions à la confession. Il faut se confesser 1000 fois par semaine si nous en avons besoin, mais ça ne veut pas dire que nous aurions besoin de communier tous les jours pour, en quelque sorte, faire aboutir cette confession. Nous dirions même, et plutôt les auteurs, les anciens auteurs moralistes nous disent que en réalité, ça serait en quelque sorte nuire à l'effet du sacrement de pénitence que de se précipiter à la communion alors que nous n'avons pas habituellement une charité qui domine. Alors vous allez dire, bon, ça c'est les vélitaires, mais les pénitents, quelle est la différence? Les pénitents sont des gens qui déjà sont suivis par des confesseurs, ne sont pas des gens qui s'auto, disons, qui s'auto, et qui font de pratique l'automédication avec en dernier recours l'absolution qui nous est donnée, mais ils ont des manuels pour confesseurs, donc ils savent tout sur eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est très mauvais. Même les médecins temporels vous le disent, alors à fortiori les médecins de l'âme. Mais c'est-à-dire, la différence, c'est que le pénitent, c'est quelqu'un donc qui est suivi, et c'est quelqu'un qui est engagé et qui s'engage véritablement dans sa vie pratique, si j'ose dire, quelle vie n'est pas pratique, dans sa vie quotidienne, quelle vie n'est pas quotidienne, dans sa vie, donc dans sa vie tout court, et qui s'engage à réformer réellement ses mauvaises mœurs. De telle sorte que s'engageant dans un processus de réelle transformation, et encore une fois, le pénitent n'a pas pour but de devenir en 15 jours un saint, etc. Il a pour but de se préparer à la communion, à une communion qui va être utile. Le pénitent se prépare méthodiquement à communier, de telle sorte que dans sa convalescence, il va pouvoir bénéficier du fruit de la mendication sacrée. Vous voyez les différences? C'est une différence très importante et elle est très oubliée aujourd'hui, et pourtant elle est absolument fondamentale, et c'est cela la discipline traditionnelle de la discipline eucharistique traditionnelle. Pour communier, nous fait confesser la séquence que nous venons de citer, dans le 17e verset, elle dit, les bons reçoivent et les méchants aussi. Pour communier, il faut être bon. Mais Dieu seul est bon, dit notre Seigneur. Les bons, sumunt boni, sumunt mali. Pour communier, mes très chers frères, il faut être bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être habituellement juste. Habituellement juste, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la charité prédomine en nous. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être saint, il ne s'agit pas de ne plus avoir besoin de se confesser, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ça veut dire qu'il faut être engagé dans une réalité durable, si j'ose dire, enfin c'est un mot à la mode, mais qui peut être utilisé, dans une réalité durable qui manifeste que nous sommes vraiment par de dignes fruits de pénitence, les enfants de notre Père Céleste, et pas simplement des velléitaires qui voudraient bien l'être, mais qui entre-temps, concrètement, sont surtout des observateurs et des serviteurs de leur propre volonté. Un homme bon, c'est un homme divin. Un homme divin, bien sûr, dans le sens absolu, c'est un saint, mais un homme divin, qu'est-ce que c'est? C'est un homme dans lequel la charité prévaut. C'est un homme qui est habituellement juste. La justice commence par l'amorce de la prédominance de la charité. Comme nous l'avons dit, une paillette d'or, c'est de l'or. Ne croyez pas que nous disons, si vous n'êtes pas une statue en or massif, vous ne pourrez pas communier. C'est faux, c'est faux. Mais avons-nous déjà une amorce de charité? Alors vous allez dire, je crois que j'aime Dieu. Le vélitaire aime Dieu, c'est-à-dire qu'il l'aime en parole, il l'aime par quelques bouts d'actes, si j'ose dire, mais c'est une chose que d'aimer, que de dire aimer notre Seigneur, de dire Seigneur, Seigneur, c'en est une autre que de faire la volonté de Dieu. Il faut dire Seigneur, Seigneur et faire la volonté de Dieu. C'est cela qui sont les enfants du Père Céleste. Alors vous allez dire, mais comment vérifier? Ben, nous sommes là pour vous donner quelques indications, mes très chers frères, nous terminons par cela. Comment vérifier si nous avons cette amorce de la prédominance de la charité, si la charité est plutôt prédominante en nous plutôt que la concupiscence? Nous pouvons donner quelques points, mettons trois indications, c'est pas exclusif qu'il y en ait beaucoup plus, bien sûr. Comment vérifier? Eh bien, premièrement, c'est très simple, mais encore faut-il y penser. Premièrement, vérifiez si votre vie est bien ordonnée. Vérifiez si vous êtes pleinement dans la station, dans un état défini. Si vous n'êtes pas dans une sorte d'état intermédiaire et imaginaire, dans lequel vous vous prenez pour toutes sortes de choses que vous n'êtes pas du tout, que vous vous attribuez toutes sortes de missions que personne ne vous a attribuées, sinon vous-même ou un Saint-Esprit imaginaire. Voilà, il faut commencer par cela. Alors vous allez dire, ça revient souvent, mais c'est-à-dire c'est le problème de notre temps aussi, hein, c'est le problème de notre temps. Si nous faisons des choses qui sont en dehors de notre état, petites ou grandes, et pas forcément les plus grandes, qui sont les plus importantes, mais nous sommes dans une situation où la charité ne peut pas prédominer. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on pour recevoir le meilleur vin du monde, on nous demande de préparer un récipient. Alors on nous dit, nous allons venir avec du vin très précieux, nous allons vous l'offrir. Maintenant, il faut que vous ayez un récipient. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on est censé? On prend la bouteille, la plus belle bouteille, on la lave, on la nettoie, on la fait sécher, pour que vraiment ça soit une bouteille qui soit digne de ce vin. Mais si vous commencez, vous venez, puis on vous dit ça. Et puis avant que les personnes arrivent pour vous donner une certaine quantité de ce vin merveilleux, vous briquez votre maison, vous faites reluire les parquets, vous utilisez des tonnes de cire pour tout faire briller. Vous dites, ma maison est dans un état impeccable. Le problème, c'est qu'on ne va pas mettre le vin par terre sur un parquet même qui est très propre. Il faut une bouteille propre. On ne va pas dire, regardez, je suis un chrétien extrêmement fervent, parce que j'ai lu tout saint Thomas, je sais tout sur tout le bout des doigts, etc., je fais la leçon à tout le monde, je sais si bien, etc. Oui, mais c'est très bien, mais ce n'est pas ça que Dieu vous demande. Donc ça ne sert à rien. Ah oui, mais vous dites que donc, lire saint Thomas, ça ne sert à rien. Mais si vous étiez clair, ça vous servirait à quelque chose. Si vous êtes un époux, et que, disons, si vous êtes un mari, et que vous avez lu tout saint Thomas, et que vous négligez votre épouse, que vous n'éduquez pas chrétiennement vos enfants, et pas en leur reversant de la somme théologique, mais en leur enseignant par votre vie et vos paroles le béaba de la vie chrétienne qui fait que les enfants grandiront et continueront avec l'aide de Dieu à être chrétiens, ça ne sert à rien. Ce n'est pas que étudier saint Thomas ne sert à rien, ça signifie que ça ne sert à rien quand ce n'est pas un devoir d'État. Et ainsi de suite, nous en avons déjà parlé, nous passons rapidement. Donc la station dans l'ordre ecclésial. Vérifiez votre station dans l'ordre ecclésial. Vérifiez si vous faites bien votre devoir d'État. On ne vous demande pas de faire bien et excellemment des choses qui ne regardent pas votre devoir d'État. Ça, c'est la première chose. Comment vérifier si l'amour est prédominant? C'est vérifier si je suis capable, je suis dans une situation où je peux vraiment accueillir et conserver la charité dans mon cœur. Encore une fois, un parquet extrêmement propre ne sert à rien quand il s'agit de recueillir le vin très précieux. Il faut une bouteille très propre. Il faut un vase très propre. Deuxième conseil pour vérifier si la charité est prédominante en nous, c'est de voir, mes très chers frères, c'est de constater en nous, et ça c'est, on répond oui ou non très rapidement, s'il y a un combat effectif contre les vices dominants, et si nous avons quand même une certaine victoire, qui n'exclut pas des échecs, bien entendu, mais une victoire qui est quand même plus une victoire qu'une défaite permanente. Ça n'exclut pas les chutes, le juste tombe 7 fois par jour, et il se relève, dit le prophète. Donc, évidemment, nous ne sommes pas en train de dire, si vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas la charité. Ce n'est pas du tout cela que nous disons. Attention, ce n'est pas cela que nous disons. Mais ce que nous disons, c'est que pour savoir, si, pour vérifier, pour déterminer en quelque sorte, si nous avons la charité prédominante en nous, c'est de voir si nous sommes engagés dans un combat effectif. Qui dit combat, dit lutte, encore une fois, je le répète au risque de me répéter, de radoter, mais qui dit lutte dit peut-être aussi chute, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut qu'il y ait un combat. C'est une chose que de gire complètement par terre dans la défaite, et puis c'en est autre que de combattre, de tomber, de se relever. Ce n'est pas la même chose du tout. Vous voyez ? Est-ce que la charité est prédominante en moi ? Est-ce que je combats efficacement contre mes mauvaises tendances ? Et malheur à celui qui dit « Oh, mais je n'ai aucune mauvaise tendance » ou « Toutes sont jugulées déjà ». Oui, oui, c'est très bien. Demandez à votre confesseur, on verra ce qu'il en pense. Ou même demandez à votre femme, demandez à vos amis. On verra si vous avez une vision aussi objective de vous-même que eux en ont de vous. Donc, il faut être engagé dans une violence faite par rapport à nous-mêmes. Violence qui n'exclut encore une fois pas que nous puissions chuter de temps en temps, même souvent, mais une violence réelle, effective, qui consiste à combattre efficacement les vices et les tendances dominantes qui sont en nous. Sans cette violence faite à soi-même, nous ne pouvons pas estimer que la charité prédomine en nous plutôt que la concupiscence. Il faut se faire une violence à soi-même pour ne pas retomber aussi souvent que nous le pouvons. Et si nous disons que, si nous avons dit il y a un instant qu'il n'est pas exclu que nous tombions, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être constamment en train de tomber. Vous voyez, il faut que nous tombions, et il se peut que nous tombions, mais nous sommes dans une tentation, nous ne tombons pas, la fois d'après nous tombons, ensuite nous tombons. Vous voyez, ça c'est plutôt une charité qui commence à être prédominante, c'est-à-dire que la victoire est plus nombreuse, les victoires sont plus nombreuses que les chutes. Il ne s'agit pas maintenant de faire des calculs de graphiques et de statistiques. Il s'agit de voir si nous. Il ne s'agit pas de savoir si nous chutons ou si nous de remportons la victoire. Il s'agit de savoir si nous sommes véritablement engagés dans un combat réel contre nous-mêmes. Et pas un combat simplement velléitaire. Souvenez-vous ces paroles de Saint Bernard, bien connues mais très vraies. L'enfer est plein de bonnes intentions. Il n'y a pas grand monde en enfer qui soit uniquement rempli de mauvaises intentions. Il y a plein de gens qui avaient plein de bonnes intentions et puis qui finalement ne les ont pas fait passer dans leur volonté. C'est une chose que d'avoir des volitions, c'est d'autre que de faire des actes de volonté, mes très chers frères. Donc la deuxième marque pour voir si la charité est prédominante en nous, c'est de voir si nous sommes engagés dans un combat violent contre nous-mêmes. Et la troisième marque, il y en aura encore plein d'autres bien sûr, mais je vous laisse avec cette troisième marque, c'est une humilité réelle, l'humilité d'un enfant reconnaissant. Vous voyez, dans la 21e strophe, il est dit ceci, « Voici le pain des anges, devenu l'aliment de l'homme en son voyage. C'est ici le pain des enfants, panis filiorum, non mitendus canibus. » Je n'ose même pas répéter la fin de cette strophe, il ne faut pas le jeter aux chiens. Mes très chers frères, il y a deux forces qui dominent en nous, ou bien la concupiscence, ou bien la charité. Ce qui fait de nous, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la liturgie, ou bien des enfants, ou bien des chiens. Alors, prenons ce mot comme un mot roboratif, parce que notre Père ne nous transforme pas en chien à chaque fois que nous chutons, bien entendu. Mais enfin, quand même, le chien, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui dévore l'Eucharistie sans discerner le corps du Christ, et pas simplement intellectuellement. Le chien, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui fait un usage indigne de ce précieux sacrement, et c'est même sous un certain rapport, pour reprendre ce que nous avons dit et le confirmer, le chien c'est celui qui va prendre le sacrement pour avoir une force supplémentaire pour accomplir la mission qu'il s'est posée à lui-même, qu'il s'est donnée à lui-même. Mes très chers frères, je n'ose pas continuer, c'est trop horrible. L'enfant a droit au pain. Et notre Seigneur l'a dit à cette pauvre cananéenne qui disait « mais les petits chiens prennent les miettes des enfants », alors ce n'est pas dans le sens eucharistique, mais vous voyez, il ne faut pas donner le pain des enfants aux chiens. Mes très chers frères, utilisons cette honte, ce mot hideux de chien qui se trouve cannibus, qui se trouve en pleine liturgie pour nous souffleter à notre honte, utilisons-le comme roboratif pour le deuxième point que nous avons évoqué. Faisons-nous violence, et la prochaine fois que vous êtes tenté, que vous êtes prêt de succomber, dites « Mais mon Dieu, faites que je ne sois pas un chien. Mon Dieu, je ne veux pas être un chien. Je ne veux pas être un chien. » Vous voyez, alors vous allez dire, c'est un peu humiliant. Mes très chers frères, je suis le premier à être humilié. Je suis, comme vous, je viens de chanter ces paroles, et c'est une condamnation contre nous-mêmes. Si nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des chiens. Être ingrat, c'est être un chien qui dévore notre Seigneur. Être humble, c'est être un enfant qui recueille de la table de son père, de la main de son père très aimant, le pain dont il a besoin pour venir jusqu'à son père, pour traverser le désert, nuit et jour, par une marche incessante, nuit et jour, jusqu'à la montagne de Dieu, où Dieu se révélera à lui. Être ingrat, je le répète, c'est être un chien qui dévore l'Eucharistie. C'est une terrible comparaison. Mais en réalité, mes très chers frères, tout ce que Dieu nous demande, c'est l'amour, c'est un amour de gratitude. Et quand nous y pensons bien, nous l'avons bien souvent dit déjà depuis le début de cette année, nous avons mille raisons d'être reconnaissants. Encore faut-il méditer sur la rédemption, vivre dans la foi au Fils de Dieu et faire prédominer, faire en sorte que la charité, avec l'aide de la grâce de Dieu, prédomine en nous par la station dans l'état, par la violence faite à nous-mêmes pour nous réformer, par l'humilité de reconnaissance. Alors évidemment, vous allez dire, mais alors, qui peut communier ? Mes très chers frères, évidemment, après un sermon sur les vraies conditions pour communier, tout le monde se pose la question. Je suis le premier à me poser la question, bien entendu. Mais voyez-vous, il y a deux façons de dire de poser cette question. On peut dire alors, qui peut communier alors ? Et puis il y a une autre qui consiste à dire, mais alors qui peut communier ? Et voyez, l'un, c'est la première façon, c'est le cri, un cri de dépit, qui montre que nous sommes dans des mauvaises dispositions. Parce que si nous entendons cela, et puis que nous nous rebiffons, et que nous disons, oui, mais alors finalement personne ne peut communier, vous interdisez la communion à tout le monde, mais alors excusez-moi, mais quand on voit votre agressivité, ça montre probablement que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. En revanche, si vous dites, mais qui peut communier, mon Dieu, puisque qui peut être assez pénitent, et qui peut avoir assez réformé sa vie pour pouvoir accéder à ce sacrement divinisant et adorable, alors, mes très chers frères, vous poussez le cri de l'humilité adoratrice. Il faut avoir la confiance de l'enfant qui aime son père et qui ne veut pas être un chien, de telle sorte que non seulement son père lui donne du pain, mais il lui donne cette fameuse mesure, cette mesure tassée, cette mesure surabondante qui déborde, mes très chers frères, la mesure dont Dieu nous comble quand nous communions dans des bonnes conditions, c'est-à-dire, encore une fois, en étant stationné dans l'ordre, en faisant de violents efforts contre nous-mêmes et en ayant cette humilité de l'enfant plein de reconnaissance. Voilà ceux qui peuvent communier. Vous voyez, il ne s'agit pas de la définition d'un saint, strictement parlé, même si le saint, c'est celui qui est parfait dans toutes ces choses. Il s'agit de celui qui a déjà une charité prédominante en lui, celui qui fait de violents efforts contre lui-même avec l'aide de la grâce de Dieu, avec l'aide du sacrement de pénitence, celui qui se laisse guider, celui qui ne veut pas être un chien, celui qui ne veut pas se jeter sur le sacrement de l'Eucharistie auquel il croit avoir droit, parce qu'il est chrétien et qu'assister à la messe sans communier, c'est perdre son temps. Mes très chers frères, soyons des enfants par la grâce de Dieu et ne soyons pas des chiens, que Dieu nous en garde. Et je vous demande de prier pour nous tous, prions les uns pour les autres, priez pour moi et vous savez que vous êtes dans mes prières, prions les uns pour les autres. Ne disons pas, Seigneur, faites qu'il ne soit pas un chien, évidemment, ça serait étrange comme question. Disons tous ensemble, Seigneur, donnez-nous de nous tenir si bien dans l'ordre, de faire si bien, de nous faire une si grande violence contre nous-mêmes et d'être si reconnaissants que nous puissions prendre cette médecine vivifiante et restructurante qui nous fera grandir de gloire en gloire, de grâce en grâce, jusqu'à la stature parfaite du Christ, qui est celui qui avait institué l'Eucharistie et qui vous donnez vous-même et à nos âmes pour les diviniser dans ce sacrement adorable que nous adorons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.